C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Campagne électorale. Hier, c'était la valse des promesses de baisse d'impôts, de crédit d'impôts, de montants forfaitaires donnés aux Québécois. Alors, M. Legault nous promet une baisse d'impôts et aussi des montants qui seront versés d'ici la fin de l'année, si bien sûr la CAQ est reportée au pouvoir, pour faire face à l'inflation, pour permettre aux familles québécoises, dit-il, d'être capables de mieux s'en sortir. Dans le cas du Parti libéral, c'est une baisse d'impôts de 1,5%. Dans le cas des conservateurs d'Éric Duhaime, c'est 2%. C'est à coup de milliards. Et la proposition du premier ministre a fait énormément jaser parce qu'il va financer cette mesure en partie avec le fonds des générations. Il va réduire le versement. Pierre-Yves va analyser tout ça pour nous ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Puis soyons clairs, les Québécois sont les plus taxés. Nous avons un fardeau global qui est parmi un des plus élevés des pays industrialisés. Et on trouve tous qu'on paie beaucoup d'impôts chaque année. Et on peut ajouter les taxes municipales, les taxes de vente. Quand vous allez faire une transaction, vous le voyez, ça vient comme gonfler la facture. On le sait. Mais on sait aussi que la facture globale du réseau de la santé va continuer d'augmenter, que l'éducation a besoin de beaucoup d'amour et de beaucoup d'argent. Et si on se prive de cet argent-là, si on hypothèque les futures générations et les besoins des futures générations, est-ce que c'est une vision à courte vue, électoraliste, pour gagner votre vote, ou si ça fait partie d'une véritable stratégie? J'ai vu hier tous les commentaires possibles, des experts qui prétendent que ça va nourrir l'inflation, des experts qui disent que c'est de retarder une collision avec le mur parce que les besoins seront grands. Puis est-ce qu'on va décider, par exemple en santé, de donner moins de services, de couper dans le panier qui est offert aux citoyens? Un jour, il va falloir qu'on se pose ces questions de base. C'est un des volets de la campagne électorale. Du côté du Parti québécois, on a mis l'emphase beaucoup sur le français, la défense du français. Et Paul Saint-Pierre Plamondon en a fait le cheval de la bataille de sa journée, tandis que chez Québec solidaire, on nous promet surtout, au-delà là, d'une réforme de la santé, qui reste à préciser, mais bon, une espèce de guichet qui ferait en sorte qu'on puisse obtenir l'information pour aller chercher le bon service. Ça ressemble un peu à ce que les caquistes proposent également ou sont même en train d'implanter. Mais dans le cas de Québec solidaire, le vrai défi, il s'en vient dimanche, alors qu'on va présenter un plan de lutte au changement climatique. Et on peut reprocher à l'ensemble des politiciens depuis les dernières années d'annoncer des cibles qu'ils sont incapables d'atteindre. Un. Deux. D'annoncer des cibles sans se donner les moyens pour les atteindre. Et trois, je dirais, la peur de dire aux gens, si vous êtes sérieux en matière environnementale, voici ce que ça implique comme changement de vie. Êtes-vous prêt à faire ça? Hier, le professeur Pinault, qu'on consulte souvent sur les questions énergétiques, disait que l'objectif de Québec solidaire, théoriquement, sur papier, peut-être, mais ça voudrait dire des changements majeurs dans le comportement des gens. Êtes-vous prêt à renoncer à votre véhicule? Êtes-vous prêt, quand je dis renoncer, à couper vos déplacements? Êtes-vous prêt à payer un peu plus pour financer davantage des infrastructures de transport en commun? Parce que Québec solidaire peut faire des grandes promesses théoriques. Là, s'ils veulent se distinguer des autres, ça prend des mesures concrètes. Mais ils nous disent, ça a été validé par des experts. OK. On verra ça dimanche. Autre aspect de la campagne, ça concerne les mesures de sécurité. Dans quelques jours, on va souligner encore une fois l'attentat contre la première femme première ministre, Mme Pauline Marois. Et on voit le climat de haine qui persiste depuis quelques années, qui a pris de l'ampleur durant la pandémie. Et même Paul Saint-Pierre Plamondon disait hier, on m'a montré des gilets pare-balles, des vestes pare-balles. c'est une présence policière nettement plus visible autour des chefs. Le premier ministre, ça va de soi. Mais les chefs de parti, c'est inhabituel. Les journalistes l'ont observé, et même quand vous regardez les images, vous voyez très bien qu'il y a une protection rapprochée qui est plus importante qu'avant. Pourquoi? Parce que les menaces sont nombreuses, et en même temps, on veut envoyer un message à des gens qui seraient peut-être tentés de vouloir intimider. Puis on l'a vu avec Mme Freeland, la vice-première ministre du Canada, en Alberta, qui n'a pas de protection. Puis c'est un fou furieux qui se dirige vers elle avec une folle, se met à crier. Et si le gars avait eu, disons, une intention autre, il aurait pu facilement atteindre son objectif. Alors, ça veut dire que les menaces sont nombreuses et que pour beaucoup de gens, c'est préoccupant. Et malgré tous les appels au calme, au débat civilisé lancé, on le voit sur les réseaux sociaux, puis c'est une partie seulement de ces commentaires d'une violence verbale. Puis tu sais, les gens ne mesurent pas les propos, là, tu sais. Ils font en finir, il faut l'abattre. Je vois passer ça régulièrement. Et ça arrive au moment où Ottawa décide de repenser la protection qui est donnée aux élus. Entre vous et moi, ce qui s'est passé avec Mme Freeland n'a aucun sens. C'est pas normal. Et au Québec, chaque ministre a un garde du corps, chauffeur, garde du corps, dans l'ensemble de ses déplacements. Puis quand la situation l'exige, on monte le niveau de sécurité. Et pour vous illustrer encore davantage ce climat de violence, aux États-Unis, on est dans la saga Trump. Et il y a le sénateur Lindsey Graham qui parle des perquisitions menées chez le président Trump en Floride, la décision de ne pas poursuivre Hillary Clinton, puis là on remonte dans le temps, de pas mettre de l'avant le dossier du fils de Joe Biden, il se dit convaincu qu'il y aura des émeutes dans les rues si le président Trump est accusé formellement de crime, par exemple, d'avoir eu en sa possession des documents confidentiels ou autres. Il se dit profondément convaincu que les partisans de Trump n'accepteront pas que leur homme soit arrêté et accusé, et que ça va virer à l'émeute. Biden doit faire un discours cette semaine sur l'état de la démocratie. Et on a le droit, je pense, de s'interroger, puis je dirais même de s'inquiéter sur ces dérives, sur ces dérapages qui sont nombreux, et pas juste aux États-Unis. Ce courant souffle également sur le Canada. On le voit un peu dans l'entourage de Bernier, on le voit dans l'entourage de Poilievre. Puis on le voit, veut pas, chez certains. Un analyste disait récemment, on a souvent attribué les propos extrêmes à la gauche. Et là, on se rend compte que des gens de droite, voire d'extrême droite, ne se cachent plus pour exprimer leur haine. Ils se cachent partiellement avec des faux comptes et des identités, mais d'autres le font carrément, ouvertement. Puis encore des gens qui prévoient des manifestations contre les mesures sanitaires. Alors, c'est le topo, un peu ce matin, de cette campagne électorale. Je vous invite, juste pour conclure, à aller voir le texte de Régis Labeaume dans La Presse. C'est une perle. Il parle de l'arrivée à Québec de candidats comme Bernard Drainville, Martine Biron. Comme dit Régis, on a dû leur promettre autre chose que d'être des fiers représentants de leur circonscription. Les autres élus de Québec n'apprécient pas. S'il y en a un qui connaît la région de Québec, c'est bien le maire, l'ancien maire de Québec, Régis Labeaume. Donc, l'anxiété des collègues se manifeste, dit-il. Il est allé renifler l'air de la pièce pour voir un peu ce qui se dégage. Il dit trois ministres, Geneviève Guilbeault, Éric Kerr et Jonathan Julien, ont sûrement dû voir leur nuit de sommeil écourtée. Ça doit bouffer des médocs pour calmer la paranoïa. Et là, il dit entre autres que celle qui doit chavirer le plus, c'est Geneviève Guilbeault, la ministre responsable de la région. Il dit qu'elle a foiré, qu'elle est ambitieuse, qu'elle ne se cache pas de l'être et que ça dérange. Une analyse de la carte électorale de Québec. Parfait, on poursuit notre revue de presse. Hier, vous aviez les ministres qui, membres d'un comité pour examiner la crise des passeports, sont venus nous dire que la situation s'améliore, mais qu'il faut s'attendre encore pour quelques mois à des périodes d'attente, et voire même des vols qui sont annulés. On aurait repris environ 80 % du trafic aérien d'avant la période de pandémie. Il y a eu des embauches. Le temps d'attente pour la sécurité est à la baisse. Il y a encore cependant des vols qui sont malheureusement annulés, repoussés dans le temps. Mais en gros, ça va mieux. Et ce que dit notamment le ministre des Transports, que ce qui s'est produit découle d'une explosion de la demande, puis qu'on avait mal prévu ça, mais qu'en même temps, c'est inacceptable. Moi, j'irais même plus loin. C'est inacceptable l'attente qu'on fait subir aux citoyens. Puis là, je ne parle pas des passeports. Je vais vous parler ce matin de l'immigration puis de l'assurance chômage. On a pu faire témoigner vendredi un homme qui est ici, qui est employé d'une firme. C'est un spécialiste en informatique. C'est un scientifique. Il veut faire venir sa famille, sa femme, ses quatre enfants, statut de résident permanent. Et là, on est perdu dans les méandres de la bureaucratie. Ça n'en finit plus. Et là, le ministère de l'Immigration a beau dire, oui, mais on a d'autres priorités, les Ukrainiens qui arrivent, très bien. Mais il y a des limites quand même. L'assurance chômage, je ne sais pas si ça vous touche, ça vous concerne, mais je vous donne des exemples de gens qui n'ont pas eu un sou depuis le mois de juin. On est rendu à septembre, dans quelques jours. Des délais dans le traitement des requêtes. Ottawa est un dinosaure dans la qualité des services offerts aux citoyens. C'est vrai pour les passeports, c'est vrai pour l'immigration, c'est vrai pour l'assurance chômage. C'est lourd, on n'en sort plus. J'espère juste qu'un jour, on va être capable de secouer la machine. Quand on nous dit on a fait des embauches, ça devrait aller mieux, ça devrait aller plus vite. Mais disons que c'est une absence de planification. Et l'autre chose que le Devoir nous dit ce matin, c'est que les guichets d'accès à la première ligne en santé, promis là, par le ministre Christian Dubé, il y aurait un certain nombre de délais. Peut-être d'un mois, peut-être pas partout en même temps, on verra. Mais ce qui va être important de savoir, est-ce que ça fonctionne? Et c'est pas juste de nous dire, voici qui vous devez voir. Est-ce que le résultat est là? Parce que l'enjeu, c'est l'accès. C'est pas la qualité des services, c'est l'accès. Mais aussi, il y a un coup d'œil à jeter sur le réseau de la santé, puis vous savez qu'on surveille pas mal ce qui se passe à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Je dois vous dire qu'en fin de semaine, ça a été mieux, nettement mieux. D'abord parce qu'il y a eu des discussions entre la direction et le syndicat, puis on a pu aménager donc une meilleure gestion des périodes à l'urgence, des périodes de travail. Mais hier, série de facteurs combinés, là, on s'est retrouvés encore une fois avec du temps supplémentaire obligatoire. Et les gens sont à bout, je prends cette expression-là, parce que ça traduit, et on va parler avec une autre infirmière ce matin, de ce qui se passe. Daniel Renaud, dans la presse, nous dit que les policiers sont allés rencontrer les gens du crime organisé, notamment des gens des Hells Angels. Ils ont fait le tour des bars, des restaurants. Et selon ce qu'on comprend, c'est que les gens du crime organisé prennent un pas de distance de cette violence qui a explosé dans les rues de Montréal, en disant « on n'a rien à voir là-dedans, on n'est pas impliqué », même si, pour les enquêteurs, les membres du crime organisé sont quand même ceux qui contrôlent le territoire puis importent des armes à feu qui se retrouvent comme ça sur le marché. Il en demeure pas moins que, parmi tous les événements violents, il y a eu des règlements de compte reliés, motards, mafias. Est-ce que ce sont les sous-traitants qui ont exécuté les contrats, puis qui se préoccupent pas si on est en plein jour, puis s'il y a du monde autour, je ne sais pas. Et est-ce que ça vient perturber leurs activités, cette chaleur, cette pression? Peut-être. Également, ce matin, dans le Globe and Mail, une étude qui indique que si vous consommez de l'alcool, et je vous donne un peu le tableau ce matin, là, par exemple, quelqu'un qui consomme de 3 à 6 consommations par semaine a un risque modéré de développer des problèmes de santé, que ce soit une cancer, problème de foie, problème cardiaque, bon. Et si vous consommez 6 verres ou plus par semaine, vous devenez une personne à haut risque. Évidemment, il y a une série de facteurs. Il y a des différences un peu hommes-femmes, également selon votre taille et tout ça. Mais le message que ce groupe d'experts veut passer, c'est un peu ce qu'on connaît, la modération a bien meilleur goût. Et que la consommation régulière, fréquente, et certains diront 6 verres par semaine, il me semble que c'est pas énorme, là, tu sais. 3 bières par semaine, 3 bières dans une semaine, selon l'étude, tu viens d'augmenter ton risque. Mais c'est sûr que si tu bois pas, zéro, t'as pas de risque. Là, tu passes à 3 bières par semaine. Est-ce que vraiment... Alors, ça fait jaser ce matin. Ukraine, il y a beaucoup de préoccupations autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia. Et on est convaincu que les Russes vont bombarder. On a même fourni aux citoyens des comprimés pour se protéger. Officiellement, sur le terrain, il y a des combats encore dans la quasi-totalité de la région occupée de Kherson, dans le sud du pays. Des combats intenses, nous dit-on. Et il y a d'autres sanctions, notamment sur les déplacements de Russes dans l'Union européenne, qui pourraient s'appliquer.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcan.
Le week-end a été un peu plus calme à l'urgence de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont quand on le compare avec l'autre week-end où ça débordait avec du temps supplémentaire obligatoire. Nous dit-on qu'il y a eu quand même des discussions entre le syndicat, la direction pour justement mieux aménager l'horaire de travail. Par contre, hier, on s'est retrouvé encore une fois avec du temps supplémentaire obligatoire, avec un manque de personnel, et c'est toujours un peu cette stratégie de gestion ou cette stratégie chaotique, finalement, qui amène cette pression sur le personnel. Annie Fournier est infirmière à l'urgence de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Madame Fournier, bonjour.
Bonjour.
D'abord, là, on va vous situer. Là, je pense que vous êtes en train de compléter votre temps supplémentaire obligatoire.
Exactement.
Vous avez commencé à quel moment hier?
À 15h45.
OK.
Puis on a commencé, on était en sit-in. Puis on a rentré finalement après 2 heures de tergiversation. Puis on s'est ramassé avec 25 patients en attente de triage, avec 10 en pré-triage. Nous, on est restés de soir 4 en TSO pour la nuit. Ce matin, ça va être 6 personnes qui vont être rétentionnées de nuit pour le jour. Et puis, on continue à faire la boule de neige comme ça.
Et là, vous finissez à quelle heure ce matin?
À 8 heures.
OK, donc une demi-heure. Et vous recommencez quand?
Techniquement, à 16 heures, à 15h45, en fait, qu'on débute. En fait, ouais,
15h45. OK. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé hier pour se retrouver avec autant de personnel absent, puis donc recours au temps supplémentaire obligatoire?
Bien, en fait, c'est pas tant pour les absents que les gens qui sont plus là. On a perdu 70 infirmières depuis 2 ans à l'urgence. Et on parle pas de l'hôpital, on parle juste de l'urgence. Parce que la pression est trop forte. On a des jeunes à qui on donne des mandats bien trop grands pour eux. Puis on fait vivre une pression énorme, puis qu'on ne soutient pas. Que dans le fond, nos patients là, sont en danger. C'est pas compliqué. Moi, personnellement, là, de voir 2 filles faire 2 16 heures puis de confier mon fils qui irait pas bien, je suis pas sûre que je me sentirais sereine.
Vous êtes infirmière depuis quand et depuis quand êtes-vous à Maisonneuve-Rosemont à l'urgence?
Depuis 2011. J'ai toujours été là.
Qu'est-ce qui a changé depuis 10 ans ou 11 ans à l'urgence de Maisonneuve-Rosemont?
Ben, en fait, c'est beaucoup la pression. C'est sûr qu'à l'urgence, à Maisonneuve, la grosseur de la gestion est quand même compliquée. Les TSO, les TS, TSO, TSO, TSO deviennent comme quelque chose de récurrent. Puis de se faire dire qu'après 16 heures, ben, c'est pas grave, tu devrais rentrer à 4 heures pareil. T'sais, c'est comme toujours remis dans la dans la case de l'infirmière. Fait que nous, on est comme vraiment tannés. On est au bout. À 4 heures, il y avait encore deux filles qui pleuraient parce qu'ils ne pouvaient pas avoir leur congé parce que hier, c'était la rentrée scolaire. T'sais, on n'est pas des religieuses qui sont associées à un couvent. On est des professionnels de la santé qu'on étudie pour être compétentes. Et là, on est relayé un drôle de rôle où ce que la population nous en veut parce qu'ils n'ont pas d'accès aux soins. On se fait crier dessus au moins 1000 fois par soir parce que les gens sont pas contents, puis je les comprends. Mais en même temps, on est avec des gens qui sont en état, dans le fond, de fatigue avancée, qui mettent en danger aussi les patients. Puis même si des fois on voudrait quitter, on ne peut pas parce qu'on ne couvre même pas le nombre de patients qui sont sur cibière.
Là, ce qu'il faut dire aussi, je pense que c'est important, c'est que vous aimez votre travail, que vous êtes une infirmière. Vous n'êtes pas blasé, sauf que les conditions pour faire votre travail, ça n'a plus de sens.
Ben non, parce que dans le fond, le bien-être du patient, il est lié à nos conditions de travail, M. Arcand. Tu sais, quand on arrive, là, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est une différence pour les patients. Mais là, on n'y arrive pas parce que là, ce qu'on fait, on fait un survol de patients. Moi, j'aime ça dire qu'on ressemble à un McDo, un patient actuellement. C'est ça, ça fait un petit bout, là. Mais c'est inacceptable quand la population a payé toute sa vie son système de santé, puis on se retrouve à des situations comme là, où que la difficulté de l'accès aux soins est difficile. Les gens ont des besoins, puis on se retrouve avec des gens qui sont complètement en détresse, démunis. Puis nous, on se crie dessus, puis en même temps, on essaie de les aider, puis on n'a aucun moyen pour essayer de faire débloquer tout ça. Mais au bout de la ligne, c'est toujours le patient qui paye. T'sais, nous, même après 16 heures, on va retourner à la maison, M. Arcand, mais ces gens-là, là, ils continuent d'être à l'hôpital. Ça, c'est triste, puis il y en a beaucoup que si on les laisse, on continue à faire cette méthode-là, ben on met des vies en danger. Puis les gens, ben ça vient du système public, hein? Donc, ils ont le droit de savoir à quoi qu'ils doivent s'attendre, en fait, quand ils se présentent dans une urgence.
Vous avez dit à mon collègue, vous avez fait une comparaison. Et j'aimerais que vous me l'expliquiez ce matin, entre ce qui se passe.
La violence conjugale?
Oui, exactement.
Ben absolument. En fait, je l'ai déjà dit à plusieurs de mes collègues. J'ai dit, moi, je compare notre situation de vie actuellement à de la violence conjugale. Je vous explique. C'est que dans le fond, la conjointe qui est victime d'actes de violence, à un moment donné, est obligée de s'en aller avec le conjoint parce qu'il ne veut pas changer et que sa vie est en danger. Bien, pour nous, c'est la même chose. T'sais, moi, le monsieur Arcand, là, j'habite à Salaberry de Valleyfield, OK? Donc, je pars de chez moi à 14 heures. Là, je fais un 16 heures et là, après 8 heures, je dois me retourner dans le trafic du matin, dans l'ouest. Et j'ai encore une heure de voiture sans trafic à faire. Fait que moi, j'appelle ça de la violence parce qu'à chaque fois, là, c'est pas comme une fois ponctuel, là, parce qu'il y a une tempête de neige. On s'entend-tu que là, c'est depuis plusieurs années que c'est une façon de faire. Puis là, à chaque fois, on se fait prendre en souricière. Puis là, le seul moyen actuellement pour qu'on se fasse entendre, c'est de quitter l'hôpital.
Vous dites,
moi,
là, si je résume...
Ouais. Je n'ai pas envie de m'en aller de Maisonneuve.
Non,
j'ai pas envie de quitter l'urgence, mais on m'oblige presque à prendre la porte.
Quand vous faites le parallèle avec la violence conjugale, là, puis là, les gens jugeront, mais dans le fond, vous dites, j'aimerais ça que mon couple s'améliore, j'aimerais ça que ma relation à l'hôpital s'améliore, mais pour mon bien, je suis peut-être mieux de sortir de cette relation-là.
Exactement. On est plusieurs à être rendus là. Puis on va être plusieurs à quitter le bateau aussi, si ça continue, parce qu'on ne peut plus travailler comme ça. Là. Tu sais, M. Arcand, la fin de semaine là, qui était chaotique, là, que Mélanie vous a parlé, moi, c'était ma fin de semaine également. Moi, j'ai fait 2-16 heures, puis on avait l'air quasiment misérable parce qu'on avait appelé malade le samedi pour être sûr de ne pas faire 3-16 heures. Mais ça devient une normalité de faire des 16 heures. Moi, je ne sais pas, je trouve pas ça normal du tout. Puis quand tu es à temps plein, tu sais, on a une vie, on a d'autres choses à faire, mais en même temps, tu sais, comprenez qu'on met notre vie aussi en danger, là. Autant au niveau de l'alimentation que des horaires circadiens, on souffre tous d'insomnie parce qu'on fait des soirs et nuits tout le temps. C'est inimaginable, là. Les filles sont en train de s'effondrer, de s'écrouler. Hier, ça pleurait dans la salle à café parce que, tu sais, les enfants les attendaient après l'école, là.
Pour la rentrée scolaire.
Oui. Mmh. Comment est-ce que vous pensez que nous, on se sent, là? Tu sais, c'est des choses comme ça à tous les jours.
Merci beaucoup d'avoir pris ce moment-là avec nous.
Ça me fait plaisir, M. Arcand.
Au revoir.
Excellente journée.
À vous aussi. Annie Fournier est infirmière à l'urgence de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Et elle termine son 16 heures actuellement. Puis elle a pris ses quelques minutes pour nous décrire la façon dont ça se passe. Pour elle, pour ses collègues, je vous rappelle, pour les gens qui n'étaient pas à l'écoute la semaine dernière, on a échangé avec Mélanie sur la situation chaotique à l'urgence, pas ce week-end, mais le week-end précédent. Il y a eu des aménagements. Et la raison pour laquelle je trouve ça important de donner du temps d'antenne puis permettre aux gens de première ligne de s'exprimer, c'est de traduire ce qu'elles vivent. Et c'est pas normal que ce soit devenu un mode de gestion. Et je le sais que la situation est complexe, qu'il n'y a pas une réponse unique. Les conditions de travail sont pas attirantes, puis en même temps, tu as besoin d'attirer pour que les conditions deviennent attirantes. C'est complexe, c'est complexe. Mais je pense que la campagne électorale est aussi une occasion, en espérant que ça soit pas juste l'écho de promesses un peu vides, de faire un débat sur le système de santé, puis un débat sur les conditions de travail des gens de première ligne, qui, comme dit Mme Fournier, ultimement, nous concernent comme patients.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
Les baisses d'impôts annoncées hier, des promesses de baisses d'impôts, autant par les libéraux, les caquistes, les conservateurs, font saliver pas mal de gens. Jonathan Trudeau nous disait tantôt, mettez-vous à la place d'une famille moyenne, là, 80 000, 85 000 $ de revenus, avec des enfants, famille de quatre, avec l'inflation, le panier d'épicerie qui grimpe. Ça va faire du bien et c'est évidemment une aide qui arrive au bon moment. Par contre, il y a d'autres éléments à considérer. Pierre-Yves, tantôt, l'a effleuré. On va le regarder plus en détail tout de suite. C'est vrai un peu ce que disait Jonathan tantôt. Quand tu es une famille de quatre, avec ce qu'on appelle un revenu de classe moyenne, là, un 300-400$ de plus, ça fait quand même du bien.
En période inflationniste, par contre, ça t'aidera pas au niveau global. Mais je comprends que d'avoir un chèque d'urgence, c'est comme un peu la hache. Tu sais, la hache rouge dans les écoles là, qu'on voit, mais qu'on n'utilise pas. Ben, envoyer un chèque rapidement, c'est pour dire, vous avez une situation d'urgence, on vous aide, mais...
C'est un dépannage.
Le 400$, 600$, c'est un peu ça. Mais d'un point de vue de réduction globale d'impôts de tout le monde en même temps, on n'est pas là. Puis, on va aller plus loin que ça. On oublie l'effet cumulatif. Il y a une époque qu'il n'y avait pas de garderie subventionnée. Il y a une époque qu'il n'y avait pas d'allocation canadienne pour enfants non imposable, qu'il n'y avait pas d'allocation Québec non imposable, qu'il n'y avait pas de garderie subventionnée. Je me demande comment on en est venu à une société qui était plus difficile à une société, je comprends que les maisons coûtent plus cher et la vie coûte plus cher, mais à une société où est-ce qu'on donne de plus en plus à chaque élection puis qu'on coupe nulle part puis qu'on croise les doigts. Puis je vais te donner un exemple. Mm-hmm. Comment je pense que les plateformes sont faites un peu à la voix comme je te pousse, qui est mon expression préférée. Je regarde par exemple chez les libéraux. On promet l'augmentation du RAP à 50 000. Donc augmenter le régime d'accession à la propriété à 50 000 piastres. Okay? Et là je me dis, coudonc, ils ont-tu écouté ce que le fédéral s'en vient avec là? Excuse-moi de la terminaison, on dirait un joueur d'hockey qui parle. Mais le fédéral s'en vient avec le CELI App, hein, une espèce de CELI comme un RAP non imposable, déductible. Et ça s'en vient en 2023, puis là, le Québec va devoir regarder ça. Puis là, on promet une mesure qui le rappe de le bonifier, mais qui n'a plus rapport pratiquement dans la classe moyenne puis dans la vie du monde, parce que c'est le CELIAP qui va prendre le dessus pour la majorité des gens qui seront admissibles. Et donc, c'est une drôle de promesse dans un contexte où est-ce que c'est un peu caduque comme promesse. Tu sais, on promet, par exemple, chez les libéraux, de dire ben, « Parfait, on va éliminer les taxes de bienvenue. » C'est super, là. Si tu élimines les taxes de bienvenue sur une maison de 4-5 000 $, disons, c'est bien gentil, là. J'achète une maison, tu me taxes plus. Mais c'est une grosse, grosse source de revenus pour les villes dans un environnement immobilier où tout roule, tout se vend, se rachète. Et donc, tu vas prendre l'argent où? On va encore plus loin. Je l'ai les tarifs d'hydroélectricité, je comprends le signal que tu envoies, mais dans des tarifs réglementés, la pire chose, c'est le gel. Parce que quand tu fais un gel, tu n'expliques pas aux gens la valeur des choses. C'est comme donner un loyer à rabais pendant plusieurs années à ton locataire puis dire là, t'es plus dans le marché, il faut que je t'augmente. Ben, on va avoir des voitures électriques prochainement, là. Notre subvention est implicitement là-dedans dans les 10 prochaines années, c'est-à-dire qu'on va passer d'une facture pétrolière à une facture d'hydroélectricité. Puis en même temps, dans ce temps-là, t'as la présidente d'Hydro-Québec qui dit il faut que les gens consomment mieux, consomment moins, puis tu t'en vas leur envoyer un ticket modérateur inversé, t'en vas leur dire finalement gaspiller plus, on va vous geler ça. C'est spécial un peu comme message.
Mais j'ai une question. Dans la proposition de la CAQ concernant les baisses d'impôts,
oui.
Ce serait donc financé en coupant les versements
au fonds des générations.
Là, j'entends des gens dire, depuis hier, là, on pénalise les plus jeunes, on ne tient pas compte du vieillissement de la population, de l'endettement du Québec. Est-ce que c'est vrai que de financer des baisses d'impôts, c'est repousser le problème vers une autre génération?
Mais le fonds des générations, c'est une des premières mesures prudentes depuis ma naissance que j'ai vu aller d'un gouvernement qui dit... On va s'entendre dans tous les partis. On va mettre en place un fonds avec notre ressource, notre or bleu, l'hydroélectricité, puis les surplus, on va financer la dette avec ça. Puis il y a un peu de logique. Quand on y pense, on a endetté le Québec pour nationaliser tout ça, pour créer tout ça. Donc, Hydro-Québec, sa grande valeur, c'est d'être adossé par le gouvernement du Québec. Donc, c'est normal que finalement, les surplus générés par ça servent à générer un contrôle de la dette. Puis à comprendre aussi que là, il y a une hausse des taux d'intérêt. C'est pas juste pour nous. Le gouvernement aussi va voir son endettement coûter plus cher. Et donc, je trouve ça très hardi de promettre une baisse d'impôts perpétuelle qui augmentera avec les années. Et ne soyez pas dupes, tout le monde. Hein. Quand on diminue les impôts, on diminue ça les déductions. C'est-à-dire que si on diminue vos impôts, votre cotisation REER va être moins payante. Votre déduction pour frais de garde va être moins payante. Tous les avantages qui sont des déductions des impôts vont être moins payants si vous avez une réduction d'impôt sur ce palier-là. Et donc, il y a ça aussi. Là. C'est pour ça qu'il y a des simulateurs, c'est important, puis de simuler votre situation. Mais ce qui est fatigant, c'est de voir que c'est un achat de vote pur et dur. Il n'y a rien d'urgent à baisser les impôts, là, en période inflationniste. Il y a
Tu dis ça, mais comme je reprends l'exemple de Jonathan, quelqu'un qui... a vu la facture d'épicerie exploser, l'achat pour la rentrée scolaire, il se dit là, écoute, j'ai besoin d'air un peu.
T'as besoin d'air, mais je te promets un besoin d'air à vie par en avant, avec un contexte qui va être de plus en plus pesant. Moi je suis très, très, très écureuil dans ma vision de l'économie du Québec, puis je me dis, tu sais, j'en parlais souvent avec mon père. Mon père, il me disait, tu sais, Pierre-Yves, un moment donné, on va être mort. Je dis, ouais, pas, mais vous allez être vivant longtemps. Et ce qu'il va faire, c'est que votre génération, sans vous pointer, vous allez peser fort quand vous allez être à la retraite sur votre ponction sur les finances publiques. Puis là, ces gens-là ont 75, 76, 78 ans. Il leur reste 10, 15, 20 ans à vivre. Et on va avoir besoin des aider. On n'a pas assez de travailleurs. C'est bizarre de promettre en 2022, alors qu'on vient de vivre un cataclysme, de vouloir acheter le vote à court terme là, d'une couple de 100 piastres. Je comprends que tu me dis, Paul, ça prend un chèque. Mais pourquoi des baisses d'impôts permanentes si justement tu l'envoies ce chèque-là? Et les personnes les plus démunies n'en paient pas beaucoup d'impôts, soyons honnêtes. Puis ceux qui ont des enfants, avec les allocations, ça commence à être majeur. Donc, la personne qui est vraiment pognée là, avec ses impôts puis que sa charge fiscale lui tape sur les nerfs, c'est la personne qui n'a pas d'enfants. C'est la personne qui paye tout, mais qui n'a jamais un retour. Et donc, cette personne-là, elle peut être fâchée puis se dire, tu vas acheter mon bot avec une baisse d'impôts parce que pour une fois, je vais en avoir pour mon argent. Mais de tout et partout, là, je comprends le désir. Puis pas, c'est pas de me mettre à part du monde puis faire semblant que ça ne m'affecte pas, mais juste l'intérêt sur nos prêts qui va augmenter ou qui augmente, c'est majeur. Puis ça, il n'y a pas une baisse d'impôts de taxes qui va compenser à 100%. On vit un moment difficile, puis on va vivre des moments difficiles. Et c'est peut-être un message à envoyer. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a créé depuis des années le CELI, le CELIAP, les allocations. On crée beaucoup de patentes fiscales qui créent en sorte que le gouvernement, je pense, qu'il ne réalise pas à quel point Il y a des gens qui vont pouvoir tellement optimiser leur fiscalité avec tous les bonbons qu'on leur donne qui n'en paieront pas le juste part d'impôt, un moment donné. C'est ça qui vient, un moment donné. Tu vois mon ton changer.
Ouais, ouais, ouais.
Cette bout-là, là, il commence à être fatigant. Parce que le CELIAP, c'est le plus grand véhicule d'évitement fiscal légalisé qui a jamais été créé au Québec et au Canada. Ça s'en vient en 2023. Là, t'as une partie de la population qui va y avoir droit, puis une autre partie qui n'y aura pas droit. Puis on va dire, ben, c'est comme ça. Et donc, on peut-tu attendre d'être dans une période où ça va un peu mieux? On a endetté le Canada de façon record. Le Québec, on est chanceux. On a regardé le Canada et on a dit, « Hey, la gang, allez-y. T'sais, endettez-vous, on va vous regarder aller puis on va patcher les trous. » Donc, on ne s'est pas trop endetté dans la pandémie à cause de ça. Mais on demeure que nous sommes Canadiens quand même. Puis que cette charge fiscale-là qui nous pend au bout du nez de l'endettement canadien, bien, il est dans notre portefeuille aussi. Donc, j'ai bien de la misère, okay, Paul, à être, disons, pas prudent.
Merci de ton éclairage.
Pas de problème, mais en attendant, si vous baissez mes impôts, la CAQ, les libéraux et compagnie, je vais le prendre. Mais vous baissez les impôts de tout le monde, même ceux qui vous disent ne le faites pas.
Mais c'est parce qu'en plus, on sait tous, on est surtaxé là, quand on fait n'importe quelle comparaison. Puis tu regardes l'état du réseau de la santé, les demandes à venir, les besoins. Tu regardes l'éducation qui a besoin d'argent puis d'amour. Puis tu te dis, OK, mais...
Ça va peut-être partout. Mais Paul, en même temps, tu sais, une bonne réflexion, c'est si je t'envoie le message que j'en ai pas besoin vraiment, puis qu'il y en a qui en ont plus besoin, me semble que la mesure du crédit d'impôt pour solidarité bonifiée, c'est quand même l'affaire la plus logique en ce moment. Tu donnes de l'argent à ceux qui en ont besoin en ce moment, précisément ceux qui vraiment payent pas leur épicerie. Pas un médecin de Westmount qui a déjà sa structure fiscale, puis tu lui dis, hey, sur le peu que tu payes, là, je t'en envoie un autre chèque.
Merci, monsieur. Bonne journée. Salut. On sent une présence policière ou une présence de sécurité plus importante autour des chefs. J'en parle avec Marcel Savard, l'ancien directeur général adjoint à la Sûreté du Québec. Monsieur Savard, bonjour.
Bonjour, monsieur Arcan.
Pourquoi, selon vous, on arrive en cette période électorale avec un plan de sécurité différent des autres, là? Qu'est-ce qui se passe? Puis pourquoi il y a, disons, on a serré la vis un peu plus?
Ben, d'abord, à toutes les élections, M. Arcan, quand arrive aux élections provinciales, s'entend, probablement exactement la même chose au fédéral aussi, c'est que on regarde justement qui sera les chefs présents et les corps policiers qui ont la juridiction, ici c'est la Sûreté du Québec, va offrir à ces chefs une protection qu'ils vont prendre sous leur charge à eux, la Sûreté du Québec. Normalement, la Sûreté du Québec, dans le cas quotidien, on est beaucoup plus axé sur le premier ministre. Les autres ministres, c'est vraiment les gens de la sécurité publique, les constables spéciaux qui s'en occupent, qui sont des constables spéciaux agents de la paix armés, on s'entend. Mm-hmm. Mais quand arrivent les élections, là, à ce moment-là, on hausse d'un cran. D'abord, parce qu'il y a les élections. Et je vous dirais actuellement, dans le contexte social dans lequel on vit, et c'est pas unique au Québec, c'est pas unique au Canada, si on faisait référence à ce que Mme Freeland a vécu, c'est à travers le monde actuellement, les politiciens, les gens qui sont devant le public, qui revendiquent ou qui représentent des options politiques, sont de plus en plus menacés, harcelés, et ça devient de plus en plus violent. Moi, j'ai l'impression qu'on va voir arriver justement une structure beaucoup plus permanente dans la protection de ces gens-là. Je suis convaincu de ça.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire?
Ben, on voit actuellement qu'on est beaucoup plus axé sur le fait que est-ce qu'il y a des événements spéciaux? Est-ce qu'il y a une menace bien précise? Rappelons-nous, Mme McKenna, il y a quelques années, elle avait été harcelée, menacée d'une façon importante. Et compte tenu de ces menaces qui étaient très, très, très présentes, on avait augmenté la sécurité. Et on le fait au Québec aussi. Maintenant, moi, j'ai l'impression, à cause du contexte, la sécurité des élus, des ministres, certainement des ministres, on va vraiment s'assurer qu'on a haussé cette sécurité-là. Évidemment, il y a des coûts à ça, là, parce que quand on décide de mettre un service policier dans la problématique de sécurité d'un ministre ou d'un politicien, ben il y a toute une structure qui vient en arrière de ça. Parce que, ben d'abord, on va faire vraiment de l'analyse en fonction du contexte, de l'environnement, des menaces. Et tout ça va déterminer comment les activités ministérielles vont se passer. Parce que ça veut dire qu'il y a des policiers qui vont aller faire la reconnaissance des lieux au préalable d'un événement. Il y a des policiers qui vont être justement à l'escorte, au garde du corps dans le chemin d'arrivée. Il y en a qui vont être présents sur les lieux. Il y en a qui vont être prêts à faire une sortie d'urgence, d'aller dans ce qu'on appelle le safe house, la maison sécuritaire. Donc, c'est un lieu de fuite, si vous voulez. Donc, il y a toute une structure en arrière de ça. Mais actuellement, on voit de plus en plus du harcèlement, des menaces verbales, jusqu'où on va aller maintenant en Amérique du Nord, là, disons, parlons pour l'Amérique du Nord, jusqu'où on va aller en matière de menaces directes, de violence extrême.
Mais Monsieur Savard, deux questions. D'abord, ces gens qui menacent, ces gens qui sont actifs, qui propagent de la haine sur les réseaux sociaux, est-ce qu'ils sont rencontrés par les policiers? Est-ce qu'ils sont accusés? On a vu quelques cas où il n'y en a pas beaucoup, où ils ne sont pas publicisés.
Souvent, M. Arcan, je vais utiliser des termes de métier puis pardonner les anglicistes.
Allez-y.
Là. Mais souvent, quand on a une information, on a de la misère à avoir confirmation, infirmée ou confirmée la menace sur un individu ou sur un groupe, parce que ça peut être sur un groupe aussi, on va aller brûler la job, comme on dit. C'est-à-dire qu'on va aller tant qu'à dire, est-ce qu'on a l'énergie à mettre pour faire une enquête, préparer un dossier, soumettre au procureur, procéder à la rencontre de témoins. Souvent, on est tellement occupé dans la quotidienneté de toutes ces opérations-là, puis dans la quotidienneté de la sécurité publique, qu'on préfère aller brûler la job. Les policiers vont le rencontrer, ils vont carrément le confronter, on va dire, ça a l'air que tu veux faire ceci, faire cela, t'as des intentions de, on veut juste te dire qu'on t'a à l'œil, etc. Donc, en faisant ça, je vous dirais que 90-95% des cas sur lesquels on va enquêter, on va les régler comme ça, mais ça règle pas le dossier de fond. C'est-à-dire que on fait pas une démonstration dans les médias qu'on prend ça au sérieux. Donc, quand vous dites que me semble qu'il n'y en a pas beaucoup qu'on accuse, etc., ben vous avez raison. Parce qu'on les brûle en partant, on brûle la job en partant, puis par la suite, ben on voit pas d'accusation, on voit pas de détention, on voit pas de sentence. Donc, les gens, est-ce que la dissuasion par rapport à tous les autres est présente?
Mais,
pas vraiment. Là.
Mais comment on arrive à une situation comme celle du fédéral? Au Québec, on comprend que la sûreté protège le premier ministre. On comprend qu'en temps normal, chaque ministre a son garde du corps de la sécurité publique, là, constable spécial, armé. Mais au fédéral, on se retrouve avec une protection selon l'horaire du ministre. Autrement dit, comment Mme Freeland a pu se retrouver sans protection dans un déplacement officiel?
Ben, je vous dirais, là, ça, c'est un dossier là qui existe pour avoir entendu des discussions quand j'étais actif sur le sujet, parce qu'il y avait des rencontres entre, justement, la GRC, la Sûreté, quel est le protocole, comment on fonctionne, sur quelle base on offre des services policiers de sécurité. Et puis, ça a toujours été. Aujourd'hui, est-ce que Mme Freeland, dans le rôle qu'elle occupe, qui est un rôle quand même très important au gouvernement fédéral, comment ça se fait qu'elle n'a, à la limite, même pas de garde du corps d'une agence de sécurité privée? Parce que c'est aussi une option, hein, en passant, c'est qu'il arrive souvent que des politiciens qui ne sont pas ministres ou qui sont des gens d'affaires publiques vont s'offrir eux autres mêmes, ou leur parti va leur offrir un garde du corps de sécurité privée. Mais que Mme Freeland se retrouve dans cette situation, qu'elle se déplace pour des rencontres qui sont à la limite officielles, qu'elle n'a pas de service de sécurité proche, en tout cas à ce qu'on a su. Maintenant, je trouve ça un petit peu aberrant. Maintenant, est-ce que la GRC va évaluer? Vous savez, à partir du moment où une organisation policière, elle a des responsabilités, mais on regarde qu'est-ce que ça veut dire pour l'organisation. C'est comme ça que ça fonctionne.
Okay.
Si je rentre le bras dans le tordeur, Est-ce que je peux plus sortir là? Ça veut dire que je rentre là, la sécurité et maintenant ça va être à tout jamais. Donc on analyse ça, c'est triste à dire, mais ça fait partie des évaluations des services policiers de dire si je rentre le bras, le corps va-tu me passer au complet au niveau financier, j'ai-tu la capacité, on va-tu me rembourser? C'est des éléments particuliers que les gens ne connaissent pas, mais les gestionnaires ont ces préoccupations-là aussi dans leur gestion de la sécurité des personnalités.
Merci, M. Savard. Bonne journée.
C'est un plaisir.
Au revoir. Marcel Savard, ancien directeur général adjoint à la Sûreté du Québec. Et je rappelle que le 4 septembre 2012, Pauline Marois était ciblée par un attentat au Métropolis. Depuis ce temps, ça fait 10 ans quand même, on le sait, plusieurs questions ont été posées sur le type de protection, sur le type d'informations, le niveau de menace qu'on avait, puis comment on a géré ça. Et pour être très franc, l'info qui circule dans le cadre d'un procès, là, c'est vraiment, on est sans mots. C'est comme si on l'avait échappé ou on n'avait pas fait le travail correctement. On va attendre de voir les conclusions, là, mais ça laisse un goût amer. Et pour tout vous dire, pendant que Mme Marois était la première femme première ministre, en plus à la tête d'un parti souverainiste, je peux vous dire que le volume de menaces était probablement du jamais vu. Et pour avoir parlé à des gens de l'entourage, c'était au quotidien, c'était hebdomadaire. C'est pour ça que je posais la question tantôt sur le type d'intervention auprès des gens qui vont dire que j'étais saoul, puis je suis pas sérieux, que c'est une blague. Ben, on s'aperçoit que minimalement, on va comme désamorcer l'affaire, mais ça se traduit pas toujours par des accusations.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Je lisais en fin de semaine un article sur l'ensemencement des nuages. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? On assiste depuis un certain temps à une compétition entre pays dans différentes régions du monde, et ça coûte cher, là, pour tenter d'exploiter les nuages et de faire pleuvoir sur son territoire plutôt que sur l'autre. Et on utilise des méthodes pour jouer, en quelque sorte, avec les nuages. Jean-Pierre Blanchet est directeur du Centre pour l'étude et la simulation du climat à l'échelle régionale et professeur à l'UQAM. Monsieur Blanchet, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
D'abord, expliquez à mes auditeurs vraiment ce que c'est que l'ensemencement des nuages.
Ben, il s'agit d'essayer de changer la composition des noyaux de condensation sur lesquels vont se former les gouttelettes ou les cristaux. Donc, ça prend beaucoup. C'est très difficile de former des cristaux de glace dans l'atmosphère. Il y en a peut-être 1 sur 10 000 qui va former un cristal. Donc, si on peut augmenter cette proportion, ben, on forme des cristaux plus rapidement.
Et l'objectif, c'est quoi?
Ben, ça peut être de modifier les propriétés du nuage. Donc, si on a beaucoup de petits cristaux, le nuage devient plus brillant, par exemple. Ou si on a peu de gros cristaux, ils commencent à descendre et puis à précipiter. Graduellement, ils vont croître en taille et puis produire des précipitations. Donc, ça joue sur l'évolution du nuage.
Quand vous dites que ça joue sur l'évolution du nuage, est-ce que ça veut dire que ça contrôle la quantité de pluie, ça contrôle la violence de l'orage ou de l'averse?
Pas vraiment. Okay. Parce que, en fait, ce qui contrôle la formation du nuage, c'est l'ascendance de l'air. Et ça prend énormément d'énergie pour faire ça. Un gros feu de forêt peut faire un nuage. C'est l'énergie qu'il y a dans un nuage de type d'orage, là, comme on a vu hier, là, c'est comparable à une bombe nucléaire en termes de quantité d'énergie. C'est pas polluant comme une bombe, mais c'est pour vous dire que c'est beaucoup d'énergie qu'il y a dans ces nuages. Donc, on peut pas produire ces nuages-là nous-mêmes. Alors qu'une fois que le nuage est produit, on peut arriver à tenter de biaiser l'incidence des précipitations, mais c'est très expérimental.
Bon, c'est expérimental, mais je disais en fin de semaine qu'il y a des pays quand même qui dépensent beaucoup d'argent, la Chine, entre autres, les Émirats arabes. On voit également qu'au Moyen-Orient, on tente aussi ce genre de technique. On en est où dans le développement de cette technique-là? Est-ce que ça fonctionne? Puis est-ce que les pays vraiment sont dans une compétition à ce point-là?
C'est de l'ingénierie du système Terre hein, qu'on fait, ou de l'ingénierie du climat qu'on essaie de faire, on essaie d'apprendre. Tous les pays, ou plusieurs pays, ont fait des expériences dans ce sens-là. Il n'y a rien d'extrêmement concluant. Ça dépend de l'application qu'on fait. Par exemple, en Chine, on a essayé d'utiliser la pluie pour réduire la pollution durant les Jeux olympiques. Les Américains ont l'utilisé au Vietnam pour biaiser l'adversaire d'une certaine façon. Donc, il y a différentes... on l'utilise au Canada pour réduire les grêlons, par exemple, dans l'Ouest canadien, pour protéger les cultures. Donc, c'est plusieurs applications dépendant des objectifs. Parfois, ça semble fonctionner, mais c'est difficile à prouver, parce que quand on l'a fait, la prestation a eu lieu, mais on ne sait pas si elle aurait eu lieu sans l'intervention.
On donnait l'exemple aux États-Unis qui faisaient de l'ensemencement de nuages pendant la guerre du Vietnam, l'objectif étant d'inonder les terres et nuire aux ennemis.
Oui, effectivement, ça peut être... C'est comme tout en science, hein, tout peut être utilisé pour le bien de l'humanité ou pour les guerres ou d'autres fins. Je pense pas que ce soit possible, par exemple, de voler l'eau d'un pays, parce que la production des nuages est vraiment à court terme. Et donc, on n'a pas d'effet sur l'incidence dans un autre pays en modifiant le chez soi, par exemple.
Mais l'exemple que j'ai en tête, c'est on a connu une vague de chaleur élevée, je pense à l'Europe, des températures. Oui. Est-ce que ça pourrait inciter des pays à jouer comme ça? Je prends cette image-là, c'est vous le scientifique, vous me corrigerez, mais à jouer avec les nuages pour augmenter les précipitations et combattre la sécheresse.
L'idée dans ça, ce serait de favoriser un événement plutôt qu'un autre à un endroit. Donc, d'essayer de biaiser un peu les choses. Je pense que les chercheurs font des expériences, mais il n'y a rien de concluant. On ne pourra pas changer le climat de cette façon-là, par exemple. Mais ça fait partie de toute la panoplie de moyens qu'on a pour modifier notre environnement, comme l'irrigation ou les contrôles de l'insolation, de certaines façons, par exemple. Il y a différentes techniques qui sont développées par ingénierie climatique, je dirais.
Parfait. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là avec nous, M. Blanchet. Bonne journée.
Ça fait plaisir.
Au revoir. Jean-Pierre Blanchet, directeur du Centre pour l'étude et la simulation du climat à l'échelle régionale et professeur à l'UQAM.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
Maintenant, une étude nous indique que la consommation de 6 verres d'alcool ou plus par semaine augmente les risques de développer des problèmes de santé, donc a un impact direct sur notre santé. Il y a différentes nuances à travers tout ça. Catherine Paradis est avec nous, directrice associée intérimaire en recherche au Centre canadien sur les dépendances et l'usage des substances. Madame Paradis, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
D'abord, ce que je veux savoir, quand on dit une consommation d'alcool, qu'est-ce que ça représente exactement?
Un verre standard d'alcool, une consommation, on parle par exemple d'une bière, là, la bouteille brune 341 ml à 5% d'alcool, un verre de vin 142 ml à 12% d'alcool ou pour les spiritueux, ça serait 43 ml de spiritueux à 40% d'alcool.
OK. Et là, j'ai vu dans l'étude, 0 à 2, il n'y a pas vraiment de danger, mais dès qu'on dépasse 2 ou 3 consommations par semaine, là, il y a une augmentation du risque.
Effectivement, c'est ce qu'on a trouvé. Et ce qu'on a décidé à la lumière de ce projet-là, de présenter aux gens, c'est un continuum de risque. Puis si vous me permettez, je vais faire une digression, puis je vais vous amener à la Faudry Horn à Rouyn-Noranda pour expliquer notre continuum de risque.
Allez-y.
Alors, c'est le scandale qui est lié à la Faudry Horn, là, c'est que dans le fond, les gens sont choqués parce que dans ce cas-là, on a dépassé. On n'a pas respecté le seuil acceptable de risque de décès prématuré qui est de 1 sur 1 million. Ce seuil-là de 1 sur 1 million, c'est la norme de référence pour des situations involontaires qu'on ne contrôle pas, comme la qualité de l'air ou la qualité de l'eau. Pour des situations volontaires, comme le tabagisme, des relations sexuelles non protégées, le seuil de risque que les gens sont prêts à accepter, c'est de 1 décès sur 1000. Et quand, dans notre modélisation, on est allé voir, un risque de 1 sur 1000, ça l'équivaut à combien? Ben, le chiffre qui est sorti, c'est 2 verres par semaine.
Non, mais Mme Paradis, là, j'entends mes auditeurs dire 2 verres par semaine. Mettons un verre de vin le vendredi soir en soupant, puis un verre de vin. Puis si j'en prends un troisième le dimanche, là, c'est quoi? Je m'expose davantage?
Ben, en fait, à 1 sur 1000, on est à 2 verres par semaine. Mais ensuite, on a continué parce qu'on sait que dans le cas de l'alcool, les gens semblent être prêts à accepter un risque plus grand. Puis il n'est pas rare que les pays qui fondent leurs recommandations liées à l'alcool sur un risque qui est de 1 sur 100. Puis à 1 sur 100, c'est là qu'on arrive aux 6 verres standards par semaine. Fait que nous, on avait ces chiffres-là, le 2, le 6. On n'est pas fous, là. Nous aussi, on vit dans la même société que vous. Puis on s'est dit, bon, comment est-ce qu'on va présenter ça aux gens? On savait aussi, parce qu'au début de ce projet-là, on a fait des consultations publiques et les gens nous ont dit... On veut pas de chiffres précis, on veut pas que vous nous disiez quoi faire, on veut donnez-nous les faits, puis on va prendre nos décisions. Fait que nous, on s'est dit très bien, puis on était en pandémie, les gens commençaient à être habitués avec des zones de risque, puis des codes de couleurs, puis on s'est dit très bien, voici ce qu'on va présenter aux gens. Puis c'est comme ça qu'on est arrivé avec ce continuum de risque-là, où finalement, on vous dit, les personnes qui souhaitent maintenir un risque faible de décès prématuré, ben, il devrait se limiter à 1 ou 2 verres par semaine. Un risque modéré, ça serait 3 à 6 verres par semaine.
Okay.
Pour éviter tout type de problème, là, jamais plus que 2 par occasion.
Est-ce qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes?
Ben, c'est une question très... C'est un des résultats étonnants de notre projet. C'est qu'on a trouvé qu'à ces niveaux-là, là, de 2 puis de 6, on a obtenu les mêmes chiffres pour les hommes et les femmes. Pardonnez-moi l'expression, on avait fait des analyses séparées pour les hommes et les femmes, puis on est arrivé au même chiffre. Par contre, c'est très important de souligner qu'une fois qu'on dépasse le 6 verres par semaine, là, le risque commence à augmenter de manière beaucoup plus importante pour les femmes. Les femmes s'exposent à beaucoup plus de risques en raison de différences physiologiques là, au-delà du 6 verres par semaine.
Est-ce que je comprends que vous souhaitez, ou en tout cas que c'est une recommandation, d'amener le fédéral à utiliser sur les produits, là, les bouteilles de bière, d'alcool, de vin, le même genre d'avertissement qu'on retrouve sur les paquets de cigarettes?
Non, c'est pas la recommandation qu'on a faite. Celle qu'on a faite, c'est on demande au fédéral de rendre obligatoire l'affichage du nombre de verres standard contenu dans une bouteille, un contenant d'alcool quelconque. Parce que dans le fond, nous, on arrive avec des recommandations en termes de verres standard. Les gens qui seraient intéressés là, de compter leurs verres puis de suivre l'évolution de leur consommation d'alcool, ils doivent avoir accès à cette information-là. C'est pas tout le monde qui sait qu'il y a combien de verres standard dans une bouteille de vin ou tu sais, aujourd'hui, avec tout le mouvement des microbrasseries, on a accès à plein de bières qui ont des taux d'alcool différents, les contenants sont de grosseur différente. Fait que c'est très difficile pour les gens de compter leurs verres. Si le fédéral rendait obligatoire l'étiquetage du nombre de verres standard, ça rendrait la tâche plus simple aux gens, tout simplement.
Merci, Mme Paradis. Bonne journée.
Merci, au revoir.
Au revoir, Catherine Paradis, directrice associée en recherche au Centre canadien sur les dépendances et l'usage des substances. Un commentaire, Catherine?
Ah, ça va aller.
Il y en a qui vont trouver le week-end plate.
Écoute, 2 verres, là, c'est...
Tu vas avoir les textos que je reçois de gens que je connais, là. C'est comme une bombe. Alors, on s'en doutait un peu aussi,
ben oui.
Là, c'est pas une grande révélation.
C'est 23.